C'est énoncé de Dieu, fut donné par par le truchement du prophète, 1400 ans après la mort de Jacob et d'Isaïe. Il se rapporte d'une part à la nation de Dom, issue d'Isaïe, sur laquelle Dieu avait exercé sa couleur, et d'autre part à Israël, constitué par les descendants de Jacob. Le Père éternel avait béni la postérité de Jacob, c'est-à-dire Israël, mais avait par contre haï Isaïe, autrement dit, et Dom, en faisant de ses montagnes une solitude, etc., etc. Il ne fait par conséquent absolument aucun doute que Dieu parle ici des nations d'Israël et des hommes, et non de Jacob et Isaïe en tant qu'individus. Ajoutons même que ces déclarations de l'Éternel n'ont en rien affecté la destinée de Jacob et d'Isaïe, car il ne s'agissait pas, comme nous venons de le voir, de considérations personnelles. En fait, il fut un temps où Jacob craignait Isaïe et où il se dit être le serviteur d'Isaïe. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve qu'Isaïe, en tant qu'individu, ait jamais servi Jacob. Sur le plan de l'éternité, nous n'avons aucune raison qui nous permette de conclure que tous les descendants de Jacob seront sauvés, ni par contre que ceux d'Isaïe seront perdus. En fait, personne ne peut affirmer qu'Isaïe lui-même sera perdu. Dans ces déclarations prophétiques, pas un mot n'est prononcé au sujet de la vie ou de la damnation éternelle de l'un ou l'autre des deux frères. La Bible montre que l'amour fraternel régna entre eux au cours des dernières années de leur existence. Sans doute le temps et les circonstances avaient-ils émoussé leur colère. Après son retour de Mésopotamie, Jacob retrouva enfin son frère, et la Bible, en Genèse chapitre 33 et verset 4, relate cette scène touchante. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Fin de citation. Les voilà donc réconciliés par l'amour fraternel. On cite très souvent, à l'appui de la théorie de la prédestination, le passage de Romains chapitre 9, verset 20 et verset 23, concernant le potier et l'argile. Je vous propose de lire ensemble cette parabole. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire, avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? De nombreuses personnes, très honnêtes, ne sont toutefois pas assez avertis sur le sens exact de ce passage tel qu'il était donné à l'origine dans l'Ancien Testament. C'est la raison qui les a amenés à croire que Dieu, en tant que grand potier de l'univers, modèle l'argile de telle manière que tout soit invariablement décidé pour toute l'éternité et que par conséquent, le cours du destin d'un être ne peut être modifié. Comme pour Jacob et Isaïe, lisons le passage original de l'Ancien Testament. En le replaçant dans son contexte, c'est-à-dire le récit d'une conversation entre Dieu et Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Il s'agit ici d'une parabole concernant Dieu et la nation d'Israël. Dieu est le potier et Israël l'argile. Vous avez certainement remarqué l'explication donnée. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Mais comme vous pouvez le constater, cette parabole n'enseigne pas qu'un homme ou même qu'une nation est façonnée par la main du potier de façon irrémédiable, invariable, sans qu'il ait à choisir sa destinée. En réalité, elle enseigne exactement l'inverse. Cette parabole présente Dieu comme étant le potier qui modèle l'argile. Il possède la puissance qui peut bénir ou détruire un pays. Mais cette force ne s'exerce pas par des décrets promulgués dès avant la création du monde. L'être humain, ou même un peuple, a un choix déterminé à faire dans la manière de connaître, de conduire et de connaître son existence. La parabole du potier de l'argile ne milite pas du tout en faveur de la doctrine de la prédétermination ou de la prédestination. Bien au contraire. Dieu n'a-t-il pas dit que de même que le potier qui façonne l'argile, il peut lui aussi arracher, abattre et détruire une nation? Par contre, il ajoute que si cette nation sur laquelle il a parlé revient de sa méchanceté, qu'il se repent du mal qu'il avait pensé de faire. Il est donc évident que Dieu n'a jamais décrété ou décidé à l'avance et d'une manière définitive quelle va être la destinée d'un homme ou d'une nation. Mes chers auditeurs, selon le désir que vous avez exprimé en m'écrivant de nombreuses lettres, j'ai poursuivi l'étude de cette question troublante de la prédestination. Et je vous propose même de la poursuivre au cours des semaines qui suivent. Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous la présente. Et qui sommes-nous? Quelqu'un qui ne porte pas d'autre nom. Ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seul, sans enseignement, et ceux des apôtres, toute autorité dans le monde. Nous parlons de ce que la Bible dit et de notre philosophie à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.